Chapitre 55. La police. La chaleur est suffocante dans le salon d'Ossian Wallenberg. Björn fait des allers-retours entre sa chaise et la fenêtre. Il fixe l'eau et le ponton. Pénélope est assise dans le canapé. Téléphone en main, elle attend que la police rappelle. Ils lui ont promis de la recontacter à ce numéro lorsque le bateau de la police maritime s'approchera de la maison. Ossian les observe depuis un fauteuil. Un grand verre de whisky est posé devant lui. Il a avalé des antidouleurs et répète à voix basse qu'il va s'en sortir. Pénélope constate que la réception est moins bonne qu'il y a quelques minutes, mais toujours suffisante pour recevoir un appel. Elle s'enfonce dans le canapé. Il fait terriblement lourd. Son t-shirt est trempé de sueur. Elle ferme les yeux et se souvient de la chaleur qui régnait dans le bus lorsqu'elle se rendait à Kouboum pour rejoindre Jane Odouya et Action contre la faim au Darfour. Elle se dirigeait vers les baraques qui constituaient l'administration de l'organisation lorsqu'elle s'arrêta près de quelques enfants qui jouaient à un jeu étrange. Il lui semblait qu'ils plaçaient des figurines en terre sur la route en espérant qu'elles soient écrasées par les voitures. Elle s'approcha lentement pour comprendre ce qu'ils faisaient. Ils riaient dès que l'une de leurs figurines était détruite.
« J'en ai tué un autre, c'était un vieux. J'ai tué un four !»
L'un des enfants s'était de nouveau précipité sur la route pour y déposer deux autres figurines, une grande et une petite. Lorsqu'une charrette roula sur la petite, les enfants exultèrent.
« Le gamin est mort! Le fils de pute est mort !»
Pénélope s'approcha des enfants pour leur demander quel était ce jeu. Ils n'avaient pas répondu et s'étaient sauvés en courant. Pénélope fixa les restes de figurines qui gisaient sur la route rouge flamboyante. Les Fours sont le peuple à qui la région du Darfour doit son nom. Cette ancienne tribu africaine a presque été décimée à la suite des massacres commis par les Janjanouides. Les peuples africains sont traditionnellement agriculteurs, et une certaine rivalité a toujours existé entre ces derniers et la partie nomade de la population. Pourtant, c'est le pétrole qui constitue la motivation réelle du génocide. On a trouvé des gisements sur les terres habitées par les vieilles tribus africaines et on a voulu les déloger. La guerre civile est officiellement terminée, mais les Janjanouides poursuivent leur raid systématique. Ils violent les femmes, tuent les hommes et les garçons et brûlent ensuite leurs habitations. Elle vit les enfants arabes prendre la fuite et aller ramasser les figurines encore intactes sur la route lorsque quelqu'un cria
« Penny ! Penny !»
Elle frissonna de peur et se retourna. Jane Odouya lui faisait des signes de la main. Jane était une femme de petite taille et assez corpulente. Elle portait un jean délavé et une veste jaune. Pénélope faillit ne pas la reconnaître. Ces quelques années passées au Darfour avaient profondément marqué son visage.
« Jane !»
Elles s'embrassèrent.
« Il ne faut pas parler avec ces enfants !»
marmonna Jane.
« Ils sont comme les autres. Ils nous détestent parce qu'on est noirs. Je n'arrive pas à comprendre. »
Jane et Pénélope avaient marché en direction du camp de réfugiés. Ici et là, des personnes s'étaient rassemblées pour boire et manger. L'odeur de lait brûlé s'était mêlée à la puanteur des latrines. Les bâches en plastique de l'ONU servaient de rideaux, de paravents, de draps, et les centaines de tentes blanches de la Croix-Rouge étaient tiraillées par le vent qui soufflait sur les plaines. Pénélope accompagna Jane dans la grande tente qui faisait office d'hôpital. La lumière du soleil devint grise à travers le tissu blanc. Jane regarda à l'intérieur du service chirurgical par une vitre en plastique.
« Mes infirmières sont devenues de bons chirurgiens, » dit-elle tout bas. « Elles effectuent des amputations et parfois même de petites interventions. »
Deux maigres garçons, âgés de 13 ans tout au plus, posèrent délicatement au sol un grand carton contenant des pansements. Ils rejoignirent Jane qui les remercia et leur dit d'aller aider les femmes qui venaient d'arriver et qui avaient besoin d'eau pour nettoyer leurs blessures. Les garçons réapparurent rapidement avec de grosses bouteilles remplies d'eau à la main.
« Ils faisaient partie de la milice arabe, » expliqua Jane en les désignant d'un signe de tête. « Mais tout est bloqué maintenant. Avec le manque de munitions et d'armes, une sorte d'équilibre s'est installé. Les gens ne savent plus quoi faire et beaucoup d'entre eux ont commencé à nous aider ici. Nous avons même une école de garçons qui compte plusieurs jeunes hommes de la milice. »
Jane entendit une jeune femme gémir et se précipita vers elle pour lui caresser le front et les joues.
Elle n'avait pas 15 ans, mais était enceinte jusqu'aux yeux et avait une jambe amputée. Toute la journée, Pénélope travailla aux côtés de Jane et exécuta tous ses ordres en ne posant aucune question. Elle ne parlait pas et faisait seulement de son mieux pour que le savoir médical de Jane soit exploité au maximum et que le plus grand nombre puisse en profiter. Un Africain d'une trentaine d'années, avec un beau visage et des épaules musclées, se précipita sur Jane avec une petite boîte blanche à la main.
« 30 nouvelles doses d'antibiotiques !» dit-il avec joie.
« C'est vrai ?»
Il hocha la tête en souriant.
« Bon boulot. Je vais aller remettre un peu la pression à Ross. Il avait parlé de nous donner une caisse de tensiomètre cette semaine. »«
Voici Gray, » dit Jane. « En réalité, il est professeur, mais je ne m'en sortirai pas sans lui. » Pénélope lui tendit la main et croisa son regard espiègle.
« Pénélope Fernandez. »«
Tarzan !» dit-il en lui donnant une poignée de main détendue.
En arrivant ici, il voulait qu'on l'appelle Tarzan, expliqua Jane en riant.
Tarzan et Jane, dit-il avec un sourire. Je suis son Tarzan.
J'ai fini par accepter qu'il s'attribue le surnom de Greystoke, mais tout le monde trouve que c'est trop dur à prononcer, alors il doit se contenter de Grey. Des coups de klaxon retentirent soudain devant la tente, et ils se précipitèrent tous les trois à l'extérieur. De la poussière rouge tourbillonnait autour du camion. Sur la plateforme arrière se trouvaient 7 hommes blessés par balle. Ils venaient de l'Est, d'une ville où un échange de tirs s'était déclenché à cause d'un puits. Le reste de la journée fut consacré aux opérations d'urgence et l'un des hommes mourut. Gray tendit une bouteille d'eau à Pénélope. Stressée, elle se contenta de secouer la tête, mais il lui sourit calmement et dit « Tu as le temps de boire ». Elle le remercia, but l'eau et l'aida ensuite à soulever l'un des blessés. Le soir venu, exténués, Pénélope et Jane mangèrent un repas léger dans la véranda de l'une des baraques. Elles discutèrent en observant les rues entre les tentes et les maisons. Quelques personnes exécutaient les dernières tâches de la soirée avant que le soleil ne disparaisse. À mesure que la nuit tombait, un silence inquiétant se répandait peu à peu. Pénélope entendait encore les frofroutements dans les latrines et quelques personnes qui se faufilaient dans l'obscurité, mais rapidement, un silence durable s'installa. Même les plus petits ne pleuraient pas.
« Il redoute encore que les Janjanouïdes ne passent par là, »
dit Jane en saisissant les assiettes. Elles entrèrent dans la baraque en verrouillant la porte derrière elles. Après avoir fait la vaisselle, Pénélope rejoignit sa chambre au bout du couloir. 2 heures plus tard, elle se réveilla en sueur dans son lit. Elle s'était endormie tout habillée. Désormais, elle prêtait attention au moindre bruit dans la nuit. Elle ignorait ce qui l'avait réveillée et était sur le point de se calmer lorsque soudain, elle entendit un cri à l'extérieur. Pénélope se leva et s'approcha de la petite fenêtre à barreaux pour regarder au dehors. Le clair de lune illuminait la rue. Elle entendit les bribes d'une conversation agitée. 3 adolescents marchaient au milieu de la rue. Ils appartenaient à la milice Janjanouïde, cela ne faisait aucun doute. L'un d'entre eux tenait un revolver. Pénélope les entendit crier quelque chose au sujet d'esclaves à tuer. Un vieil homme qui avait l'habitude de faire griller des patates douces sur la braise pour les vendre à 2 piastres l'une était assis sur sa couverture devant l'une des réserves de l'ONU. Les garçons s'en approchèrent et lui crachèrent dessus. Celui qui était armé leva son revolver et lui tira dessus en plein milieu du front. La détonation résonna entre les maisons. Les garçons crièrent encore, ramassèrent quelques patates douces, en mangèrent quelques bouchées, puis lancèrent les restes sur la route poussiéreuse près du mort. Ils jetaient des coups d'œil autour d'eux et désignèrent la baraque où logeaient Pénélope et Jane. Pénélope se souvient d'avoir retenu son souffle alors qu'elle entendait leurs pas lourds sur la véranda. Ils cognèrent sur la porte en échangeant des paroles excitées. Pénélope inspire soudain profondément et rouvre les yeux. Elle a dû s'endormir dans le canapé d'Ossian Wallenberg. Le grondement du tonnerre s'estompe dans un crépitement sourd. Le ciel s'est assombri. Björn est à la fenêtre et Ossian sirote son whisky. Pénélope regarde le téléphone. Personne n'a appelé. La police maritime ne devrait plus tarder. L'orage semble s'approcher rapidement. La lumière s'éteint et le ventilateur de la cuisine s'arrête. Il y a une panne de courant. Ils entendent un petit clapotis sur le toit et soudain, il se met à pleuvoir à verse. Il n'y a plus de réseau téléphonique. Un éclair immédiatement suivi d'un violent coup de tonnerre illumine la pièce. Pénélope écoute la pluie et sent l'air frais passer sous la vitre. Elle s'assoupit de nouveau, mais est bientôt réveillée par Björn.
« Quoi ?»
demande-t-elle.
« Un bateau !»
répète-t-il.
« Un bateau de police !»
Elle se lève d'un bond et regarde au dehors. L'eau semble bouillir sous l'effet de la pluie torrentielle. Le grand bateau s'approche du ponton. Pénélope regarde l'écran du téléphone. Toujours pas de réception.
« Dépêche-toi !»
dit Björn. Il tente d'introduire la clé dans la serrure de la porte de la terrasse. Ses mains tremblent. Le bateau de police glisse vers le ponton et donne un coup de sirène.
« Elle ne correspond pas !» dit Björn d'une voix forte. « Ce n'est pas la bonne clé !»«
Aïe, aïe, aïe !» sourit Ossiane en saisissant son trousseau. « Alors ça doit être celle-là !»
Björn récupère la clé, l'introduit dans la serrure et entend le tintement métallique. Il est difficile de voir le bateau de police à travers la pluie. Il a déjà commencé à s'éloigner du ponton lorsque Björn parvient à ouvrir la porte.
« Björn !»
crie Pénélope. Le moteur gronde en laissant un bouillonnement d'écume derrière lui. Björn fait un signe de la main et court à toute vitesse sur l'allée de gravier qui conduit en bas de la côte.
« Là-haut !»
crie-t-il.
« On est là !»
Il est complètement trempé lorsqu'il atteint le ponton. Le moteur ralentit en provoquant un grondement sous l'eau. Un sac contenant du matériel de premier secours gît sur le pont arrière. Il devine un policier à travers la vitre. Un nouvel éclair illumine le ciel. Le tonnerre est assourdissant. L'agent semble parler dans une radio. La pluie rebondit sur le toit du bateau. De grosses vagues déferlent sur la plage. Björn crie et tend son bras le plus possible pour lui faire signe. Le bateau rebrousse alors chemin et le côté gauche vient heurter le ponton. Björn s'agrippe à la balustrade humide et monte à bord. Il traverse un petit couloir qui mène à une porte en métal. Le bateau tangue. Björn vacille, mais parvient à ouvrir la lourde porte. Une odeur sucrée et métallique emplit la timonerie, comme un mélange de pétrole et de transpiration. La première chose qu'aperçoit Björn est un policier bronzé qui gît au sol, une contusion au front. Ses yeux sont grands ouverts et une mare de sang presque noir se répand sous lui. La respiration de Björn s'accélère. Il jette des regards furtifs sur le matériel de la police, sur des imperméables et des magazines de surf. Une voix lui parvient malgré le grondement du moteur. C'est Ossiane Wallenberg qui crie depuis l'allée. Il s'approche du ponton en clopinant, un parapluie jaune au-dessus de la tête. Björn sent son pouls marteler ses tempes et comprend son erreur. Il est tombé dans un piège. Il aperçoit des taches de sang sur la vitre et tâtonne pour trouver la poignée de la porte. L'escalier de la cabine grince. Le tueur monte. Il est vêtu d'un uniforme de police et son visage semble attentif, presque curieux. Björn comprend qu'il est trop tard pour fuir. Il saisit un tournevis sur l'étagère au-dessus du tableau de bord. Le tueur, qui se tient à la rampe, pénètre dans la timonerie, cligne des yeux pour s'habituer à la forte lumière et regarde un instant la plage par le pare-brise. La pluie frappe contre la vitre. Björn s'élance et vise le cœur du tueur avec son tournevis sans réellement comprendre ce qui se passe. Son épaule tressaille, il reçoit un coup au côté et soudain ne sent plus son bras. Le tournevis tombe à terre et disparaît derrière une boîte à outils en aluminium. Le tueur maintient son emprise sur le bras inerte, le tire vers l'avant, fait plier le buste de Björn et balaye ses jambes d'un coup de pied. Il accentue la brutalité de la chute de Björn de façon à ce que son visage plonge droit sur le repose-pied près du gouvernail. Sa nuque se brise dans un craquement sourd. Il ne sent plus rien, mais aperçoit quelques étincelles étranges qui sautillent de plus en plus lentement dans le noir. Le visage de Björn frémit légèrement, et en quelques secondes, il est mort.